Bonjour à tous, bienvenue dans le tout premier podcast de Prestart Button. Donc je suis pour ce premier podcast en compagnie de Xélan
Bonjour.
ainsi que de Sabaka.
Bonjour à tout le monde.
Donc voilà, donc pour ce premier podcast, nous allons parler évidemment de Sonic, on l'avait annoncé dans l'émission. Donc l'historique un petit peu, le concept, la naissance, tout ça, suivi d'un bref historique, et nous allons finir par les qualités et les défauts de la série actuellement. Donc pour commencer, nous allons partir sur la naissance du concept, comment est né Sonic. Donc je pense que Xélan est le plus qualifié pour parler de ce sujet.
Oui, bah en fait Sonic est apparu en fait dans une période où Sega avait quelques problèmes. Ils n'arrivaient pas à imposer leur console par rapport à Mario. Donc c'était nécessaire. Donc ils ont fait plusieurs recherches en fait. Il y a eu une sorte de petit concours. Plusieurs ont été retenus, hein. Notamment Eggman, donc Robotnik, qui plus tard en fait va devenir le méchant de l'histoire. Il y a aussi un Bulldog et un loup. Et en fait, au bout d'un moment, il y a Yuji Naka qui a eu l'idée d'un hérisson. Oui?
Je pense qu'on peut aussi rajouter le concept du lapin qui avait été fortement conseillé auprès des développeurs. Ils commençaient même déjà à développer le gameplay du lapin. C'était un lapin qui était censé balancer des carottes avec ses oreilles. Donc je pense qu'il était bon de le préciser.
Ouais, mais c'était trop lent. C'est ça, je crois que c'était ça le problème, c'était beaucoup trop lent.
Oui,
Donc
exactement,
en
en
fin de compte,
fait.
c'est Sonic qui a été accepté par Yuji Naka.
En fait, Yuji Naka avait déjà préparé le scrolling horizontal qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il avait déjà fait tout le moteur de jeu, il cherchait juste un personnage justement rapide et qui avait la possibilité justement de justifier ses excès de vitesse. Donc Sonic était parfait puisqu'il pouvait se mettre en boule et c'est donc lui qui a retenu l'attention et le bleu de la couleur de Sega était parfaitement prédestiné
Ouais.
au personnage.
Le bleu du logo avec le Sega.
Donc ensuite, je pense qu'on peut aussi
Donc
préciser que la console était en cette année-là dans des difficultés, on va dire, de public. Ils avaient quelques mascottes comme Oppa Oppa ou Wonder Boy ou Shinobi qui ne trouvaient pas leur public puisqu'ils n'étaient pas assez universels. Et je pense aussi que ils voulaient faire revivre leur console un maximum et je pense que ça a plutôt bien marché. Puisqu'on va passer justement au premier jeu, le tout premier jeu réellement où est apparu Sonic qui était Rad Mobile, qui faisait une apparition, et ensuite il y a eu en 1991
Sonic faisait une
Sonic 1.
apparition, Sonic the
Je pense
Hedgehog
que
sur Mega Drive
Sabaka
avec une
pourrait
grosse
nous
campagne de
informer un
pub
petit
pour
peu
ce jeu.
sur ce jeu.
Eh bien, Sonic the Hedgehog, dit aussi Sonic 1, est sorti en 1991. Et en fait, avait pour héros, enfin, le vrai hérisson Sonic, qui devait sauver 6 Chaos Emeralds, c'est-à-dire des émeraudes nécessaires pour sauver le monde qui ont été volées, ou plutôt subtilisées par Robotnik, mais aussi Eggman, qui sera le grand ennemi. C'était un jeu en mode scrolling horizontal ou en plateforme, où l'on devait éliminer les ennemis le plus rapidement possible pour arriver à l'objectif, de manière vraiment très très rapide pour essayer de battre le record de temps le plus rapide possible et pour arriver jusqu'à récupérer les 6 émeraudes nécessaires.
Ok,
Et
donc
surtout vaincre
je
Eggman.
pense que oui aussi vaincre Redman, mais je pense que la grosse qualité du jeu a été quand même le scrolling horizontal qui était ultra rapide pour l'époque sur une console quand même de l'époque. Il faut se remettre dans le contexte. C'était vraiment une claque graphique énorme. On n'avait jamais vu ça, donc je pense que ça, le
Ah oui, mais
concept,
les effets
les
aussi.
graphismes chatoyants, tout ça a permis de c'est donc ça en fait qui a fait le succès de la série en 2D au départ, et on va pouvoir passer au Sonic 2 et l'après Sonic 1 où il y a tout un tas de nouveautés. Xelan, tu peux nous en dire plus?
Ah mais faut pas oublier aussi que sur Master System, le jeu a été adapté.
Oui, effectivement, il y a eu beaucoup d'adaptations, mais c'était et sur la Game Gear, mais ce fut après le Sonic 1 de 91 qu'on connaît.
Oui. Après Sonic 1, ils l'ont adapté pour les autres consoles, histoire de booster un peu les ventes.
Exactement.
Ok, si tu veux, on peut passer à Sonic 2. Donc bah lui, il apporte beaucoup
oui, Sonic de 2. Nouveautés.
Hein. Pas forcément graphique, mais pas forcément graphique, mais même musical. Hein. C'est bon et ça n'a pas spécialement changé, même au niveau du moteur. C'est des nouveautés de gameplay, c'est un nouveau personnage, c'est des niveaux plus longs et plus partageants en trois actes, mais en deux actes. Alors le nouveau personnage, il s'appelle Tails. Il faut savoir qu'à la base, il s'appelait Miles et qu'au Japon, il a gardé le nom de Miles. C'est un renard à deux queues qui peut voler. Et donc il va suivre Sonic partout dans ses aventures.
Oui, voilà, la grande nouveauté aussi, du moteur, c'est quand même que Tails suit Sonic dans tous ses mouvements et a la possibilité de voler. La grande nouveauté, justement, c'était ça. C'est le fait qu'on pouvait jouer en multijoueur, soit dans des courses, soit sur un seul écran, donc sans écran splitté. Le deuxième contrôleur en fait servait à contrôler Tails. Bon, c'était pas vraiment abouti parce que on passait plus son temps à essayer d'apparaître à l'écran quand on prenait Tails qu'autre chose, mais je pense que c'était quand même une réelle nouveauté de pouvoir à tout moment du jeu se faire aider par un ami, et je pense que ça a fait aussi dans la qualité du titre.
Ouais, c'était assez,
je tiens aussi à préciser quelque chose, c'est que
oui,
dans Sonic the Hedgehog 2, il y a eu une attaque qui a été rajoutée, qui s'appelle le speed dash et qui permet de prendre des départs plutôt rapides.
Oui, bah on a d'ailleurs en parlé, ça. C'est le speed dash, en fait, c'est une nouveauté qui va rester dans beaucoup de jeux Sonic. Hein. Il y a que, je crois, Sonic Heroes qui l'a pas, le speed dash. Bah oui, ça a été une révolution, ça permettait de se déplacer très très vite.
Je pense que l'on
Sonic
peut passer 2, à l'étape suivante.
Oui, je pense que on peut aussi préciser l'ajout des personnages comme Knuckles dans la série des 2D. Donc ensuite, on a eu Sonic 3, où la première apparition de Knuckles en perso non jouable. Puis Sonic et Knuckles, où là, était entièrement jouable dans tous les niveaux du jeu. Donc on pouvait choisir entre Sonic et Knuckles. Et ensuite, enfin, en même temps, il y a eu le fameux Lock-On, le système du Lock-On avec Sonic et Knuckles. On pouvait rajouter la cartouche de Sonic 2 ou la cartouche de Sonic 3 et jouer avec Knuckles dans l'intégrité des niveaux. Donc ça, c'était aussi une grosse claque parce que en achetant un jeu, on pouvait en avoir trois différents. Et je pense que ça aussi, c'était un joli coup marketing de la part de Sega. Et les développeurs ont dû faire un travail énorme. Donc je crois que d'ailleurs, c'était un des derniers travails énormes qu'on a eu sur un Sonic, parce qu'à part Sonic Adventure, sur lequel on va passer maintenant, je vois pas beaucoup de vraiment de jeux tellement aboutis au niveau contenu. Au niveau du contenu, je pense que Sonic et Knuckles était une vraie révolution.
C'était quand même 14.
Je tiens aussi à ajouter qu'il y avait eu
3 et Knuckles.
Aussi un nouvel ajout d'un nouvel ennemi.
Lequel?
Nouveau Metal Sonic.
Ah oui, Metal Sonic, oui, Metal effectivement.
Sonic. Il y avait eu Metal Sonic dans Sonic 2, après il y a eu Mecha Sonic qui pouvait utiliser le pouvoir de l'émeraude.
Effectivement, et on peut aussi préciser quelques Sonic CD et autres Knuckles Chaotix. Sonic CD sorti sur Mega CD, où justement on rencontrait deux nouveaux personnages, Metal Sonic et Amy, donc enfin une fille dans la série, un personnage féminin. Puis il y a eu une Knuckles Chaotix où on a rencontré l'équipe Chaotix qui est composée de Vector, de d'Espio, de Charmy, de Mighty. Ah,
Knuckles Chaotix, c'est un gros spin-off en fait. Juste après,
oui, exactement.
Sonic et Knuckles, on fait une histoire sur le nouveau personnage, quoi. C'est marketing, hein, purement marketing. Sonic CD,
effectivement.
Ce sont les inspirations de Sonic 2 qui n'ont pas suffi, qui ont été conservées. Je veux dire, le système de se déplacer dans le temps, à la base, ça devait être pour Sonic 2. Mais ils ont pas
d'accord,
ils ont planté dans un autre jeu.
Ok. Donc, on peut dire que la série 2D pure s'est arrêtée après Sonic 3D, je pense. Puisque Sonic 3D étant comme son nom ne l'indique pas, en 3D isométrique. Donc c'est une sorte de 2D, c'est une fausse 3D, mais ça reste de la 2D.
Un
Et
raté.
c'est un gros raté aussi, parce que c'était injouable,
C'est aussi
c'était vraiment
injouable, c'est
c'était
un
une
jeu
expérience
raté,
de jeu.
celui de 3D. Ouais.
C'était vraiment raté au possible, bien que ça ait conservé l'esprit Sonic. On avait vraiment tout ce qui est les petits carreaux. On avait les trois personnages principaux, Sonic, Tails et Knuckles. Tails et Knuckles étant non jouables, mais faisaient des apparitions. On a aussi l'ajout dans la série d'un personnage externe, qui sont les Flickies, qui étaient au départ un jeu à part entière, qui sont devenus un petit peu à la manière de Super Mario Bros. 2, qui avait ajouté les Maskass, les Shy Guys et tout, à la série, juste en faisant un spin-off. Là, Sonic 3D ajoute les Flickies, qui n'étaient au départ, ils n'avaient aucun rapport avec la série.
Et qui ont été ajoutés car on devait les sauver. Car comme quoi Eggman veut les transformer les Flickies en robots pour s'en servir contre Sonic.
Exactement, comme dans la plupart des Sonic, de toute manière, il prend des animaux et il les enferme dans des robots. Le but est de les libérer. Tout ça jusqu'à Sonic Heroes.
Mais malgré tous ses défauts, il a quand même le mérite d'avoir une très bonne bande son en fait. Les musiques sont très bonnes. D'ailleurs, il y a beaucoup de fans de la communauté Sonic qui les ont reprises dans des hacks. Et l'esprit Sonic est
Oui.
présent à fond. Il y a même des spéciales
Et puis
stages qui sont reprises en
on
fait
peut
de Sonic.
aussi on peut aussi dire que les musiques de Sonic 3D, certaines, je crois qu'il y en a une en particulier, une ou deux, qui ont été reprises dans Sonic Adventure, sur lequel on va passer maintenant.
Oui.
Donc la grosse claque, la grosse
D'ailleurs,
révolution.
le premier vrai jeu 3D Sonic, en fait.
Oui, exactement.
Où
Exactement,
on en a ajouté.
c'était le tout premier jeu 3D, 3D complète, on va dire, avec un gameplay, on va dire, à peu près potable. C'était vraiment une grosse claque, un petit peu à la manière, je le compare encore à Mario, c'était un petit peu le Mario 64 de la série Sonic, c'est-à-dire qu'on passait vraiment à autre chose. Il y avait vraiment quelque chose de nouveau, l'ajout de nouveaux mouvements comme le homing attack, qui nous permettait de faire des attaques autoguidé vers un ennemi, donc qui facilitait les choses pour la 3D. Cet ajout était vraiment indispensable, parce que sans ce mouvement, on aurait, je pense, mis des heures et des heures à tuer un seul ennemi, parce qu'en 3D, c'est pas vraiment maniable. Mais c'était vraiment un très bon jeu, avec l'ajout de nouveaux personnages.
Dans ce
Oui,
nouveau
d'ailleurs,
personnage, je
Billy,
tiens à
un
citer
robot.
deux qui sont vraiment mis en valeur, enfin, avec des petits scénarios et non pas vraiment un gameplay plutôt potable. Mais on fait une petite innovation, dont E-102 Gamma, qui est un robot que Eggman a créé mais qui se rebelle finalement contre lui, et Big The Cat, qui n'aura pour lui que des missions dites de pêche.
Ah oui, lui c'était vraiment très très lent. Ça cassait complètement avec ce qu'on a été habitué dans des titres Sonic. Hein. C'est lent. Il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est lent, quoi.
Exactement. Je pense que là, on peut arriver sur je pense, ce qui va faire débat, le débat le plus long de ce podcast, c'est la 3D dans Sonic. Finalement, est-ce un bien ou un mal? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut déjà relever les qualités, les défauts du passage à la 3D? C'est-à-dire, est-ce que le gameplay est si bien que ça? Est-ce que c'est forcément toujours beau?
Techniquement,
Moi, je tiens à
Sonic
dire que...
Adventure sur Dreamcast était super beau. Je veux dire, c'était la première console 128 bits. Les graphismes étaient très très jolis. L'adaptation sur GameCube l'était tout autant. Le jeu a pas trop vieilli. Et niveau gameplay, ça conserve des éléments old school et ça en ajoute de nouveaux. Donc le jeu est quand même assez jouable par rapport à des titres un peu plus récents comme Sonic Heroes ou Sonic 360 sur PS3.
Sabaka, tu voulais réagir?
Oui, je voulais intervenir, oui. Comme dans les ajouts de la 3D qui permettent de faire des homing attacks, des attaques guidées vers les ennemis, comme on l'a déjà cité précédemment, mais qui a quand même un point faible, qui est sa gestion de la caméra, qui peut
C'est
parfois
vrai qu'il y a
être
des passages comme
complètement,
le
si je peux
looping.
dire, foireuse.
Il y a des loopings très très difficiles à prendre à cause de ça. Et il y a des bugs aussi Enfin, le pire, ça reste sur la version GameCube, parce que la version Dreamcast, ça peut aller. On passe à travers du sol, en pleine course, on sait pas pourquoi. C'était pas parfait. Faut le dire, hein, même si le jeu est quand même...
Il y avait quand même pas mal de défauts.
Mais il était innovant. Parce que chaque personnage avait une façon de jouer différente. Je veux dire, Sonic, ça privilégie bien sûr la vitesse. Il traverse les niveaux, il se joue comme dans les anciens Sonic. Tandis que Tails, c'est de la course, Knuckles, c'est de la recherche, Amy, c'est de la fuite, Bee, c'est de la pêche, et E101, c'est du shoot. Je veux dire, les personnages sont
oui,
bien différents.
Effectivement, on a complètement à peu près 6 gameplays différents dans le même jeu. Je pense qu'on n'a pas eu ça depuis longtemps aussi dans la série Sonic. Après, il y a vraiment des défauts. Je parle plutôt par rapport à ce qui s'est passé après Sonic Adventure, c'est-à-dire du Sonic Adventure 2, du Sonic Heroes. Bien que Sonic Adventure 2 soit terrible, mais je pense que quelque chose comme Sonic Heroes, ça a été vraiment pour moi une déception. Moi qui suis assez fan de la série, il faut le dire, ça a été vraiment une grosse déception. Déjà parce que le jeu m'a complètement violé, c'est-à-dire que je me retrouve dans des endroits où je dois tuer un ennemi avec Knuckles, donc le bourrin de la bande. Pour ceux qui connaissent pas Sonic Heroes, le concept c'est qu'on a trois personnages à contrôler en même temps, chacun ayant ses aptitudes, Sonic la vitesse, Tails le vol et Knuckles la force, et ainsi de suite avec les autres teams. Donc on a une team et on doit la contrôler en interchangeant les personnages principaux avec les boutons. Le problème c'est que quand on voulait tuer un ennemi avec Knuckles, Knuckles glissait littéralement, c'est-à-dire que on balançait un coup de poing, sauf que il faisait une sorte de glissade énorme qui nous précipitait dans un trou immédiatement, et c'était impossible de s'en sortir sur des plateformes qui faisaient à l'échelle des héros, il faisait même pas 3 mètres d'envergure, quoi, enfin de tour, donc c'était vraiment difficile. Bien que le scénario soit très évolué, je pense, sur Sonic Heroes.
En fait, Heroes,
d'autant plus que l'équipe jouable était plusieurs nombreuses. Il y en avait plusieurs avec lesquelles on pouvait jouer. Environ 5 ou 6.
Exactement pareil.
Oui.
Toutes les teams
se jouaient avec des aptitudes plutôt pareilles. Mais ils suivaient une histoire différente, qui finalement se rejoignait tout ensemble.
Ouais, bah ça c'est... C'est un petit peu le principe qui a été on va dire écrit depuis Sonic Adventure. C'est-à-dire que dans Sonic Adventure on avait carrément je crois 6 personnages qui avaient une histoire différente mais effectivement qui se rejoignaient à la fin. Et donc ça c'est depuis vraiment un petit bout de temps. Après je pense que dans les mauvais jeux on pourrait classer aussi Shadow the Hedgehog, bien qu'on peut s'amuser dessus, je dis pas le contraire, mais au niveau réalisation, au niveau univers, je trouve que Sonic the Hedgehog ne correspond pas du tout à l'univers Sonic, rien que de par ses couleurs un petit peu grises. Alors qu'on était plutôt habitué à du Green Hill, du truc coloré, où ça flash de partout.
C'est le but. Shadow the Hedgehog, c'est un spin-off. Mm-hmm. C'est pas vraiment à l'intérieur de la série Sonic. C'est un zoom sur un personnage. En plus, vous avez complètement passé Sonic Adventure 2. C'est le zoom sur un nouveau personnage qui a pris son importance. Hein. C'est une histoire complètement différente. Sonic, c'est un monde heureux. Shadow, c'est plus sombre. C'est d'un côté plus dark. Le but, c'est d'être plus adulte, même si... En fin de compte, ça attire plutôt les enfants, ça fait vendre. Mais Shadow the Hedgehog, il a beaucoup de défauts, et on trouve les défauts de Sonic Heroes, en fait. Très très dur à contrôler.
Exactement.
Mais il y a des innovations. Alors après, bien sûr, ça dépend des goûts. Hein. Est-ce qu'on aime bien utiliser des armes dans Sonic ? Enfin, dans notre cas, ça serait plutôt Shadow. Est-ce qu'on aime bien tirer ? Ça avait déjà été instauré un petit peu avec Sonic Adventure. Après, faut voir si ça plaît. Mais le système est réussi à ce niveau-là, le système de tir.
Mm-hmm. Sabaka ?
Oui, je voulais dire quelque chose. C'est que moi, je pense que tirer avec des armes à feu et le gameplay ne correspond pas vraiment aux autres Sonic, même si c'était un spin-off. Que l'univers soit, comme on peut dire, pour les héros ou dark, comme Xenon l'a cité, je pense qu'on s'est un petit peu quand même éloigné du gameplay original de Sonic.
C'est le but. C'est le but. C'est l'objectif de faire un spin-off comme ça, c'est de s'éloigner de l'univers, d'essayer d'extrapoler un petit peu. Shadow the Hedgehog, faut pas le considérer comme un spin-off.
Effectivement,
c'est différent.
Je pense
c'est
que... je pense que c'est vraiment quelque chose de différent, mais dans ces cas-là, pourquoi inclure Sonic à l'intérieur du jeu, Sonic et la plupart de son univers, alors qu'on aurait pu carrément faire un spin-off Shadow the Hedgehog, où Sonic n'apparaît pas forcément, où Tails n'apparaît pas forcément, ou instaurer carrément un autre univers. Et dans ces cas-là, je pense que j'aurais bien compris le principe du gameplay décalé par rapport au reste de la série. Mais là, j'ai vraiment pas compris pourquoi dans un jeu qui est censé reprendre l'univers de Sonic, on reprenne pas forcément son gameplay. Après, aussi, on peut considérer chaque personnage secondaire comme dans Sonic Adventure, on peut considérer E102 comme un spin-off de Sonic Adventure, je suis d'accord, mais dans ces cas-là, il aurait fallu faire un jeu Shadow the Hedgehog à l'intérieur d'un jeu Sonic the Hedgehog. Je pense que ça aurait été plus précis, ça aurait été moins flou en fait par rapport à l'univers original.
Le but, c'est de s'en éloigner, hein. Je le répète tout le temps, mais c'est l'objectif, hein, de Sega et de la Sonic Team. C'est de s'éloigner un petit peu de l'aspect toujours enfantin de Sonic et d'aller vers un univers plus sombre.
Non.
Mais pourquoi on voit Sonic? C'est pour faire un clin d'œil à la série. Peu de temps avant, il y avait Sonic Heroes.
Non.
Donc on fait un clin d'œil, on rappelle qu'il y a quand même un lien entre les deux jeux.
Je pense plutôt que si l'on a instauré Shadow, qui devait être à l'origine seulement jouable lors du didacticiel, je pense, c'est mon avis, que c'est plutôt pour le marketing. Hein.
Ah mais après, tout est marketing. Hein. À chaque fois qu'on fait une nouvelle innovation, c'est pour essayer de gagner encore plus d'argent. Sega, c'est une entreprise. Hein. Si
je
Shadow
pense,
était implanté, c'est pour innover. Hein. Déjà dans Sonic
je pense
Adventure 2,
que,
c'est...
je pense que sur ce sujet-là, de toute manière, il n'y a pas grand monde qui est d'accord les uns avec les autres. C'est un jeu qui apporte énormément à controverse dans l'univers. Je pense qu'il y aura toujours des pour et des contre. Maintenant, j'ai envie de dire, de toute manière, le jeu, il a cartonné. Un minimum, il a fait vendre. Bon, voilà, tant mieux. Maintenant, je
Ne
pense
vendent pas.
que de Shadow, on peut passer à un autre sujet aussi intéressant. C'est l'ajout des nouveaux personnages intensifs. C'est-à-dire que pourquoi, moi, je me demande pourquoi toujours à chaque nouveau jeu Sonic, on a un nouveau personnage, alors que il pourrait très bien se contenter de ce qu'il a. Il a vachement de ressources pour faire un scénario bien ancré et un scénario digne d'un jeu vidéo, quoi. Il a assez de personnages, cette série a assez de personnages, pourquoi en rajouter? C'est ça que je me demande, moi.
Bah,
pour innover.
Ça a toujours été le cas. Hein.
Si l'on ne fait pas d'innovation,
C'est de
le jeu
l'innovation.
sera plat. Et
Il a raison.
forcément, si le
Mais
jeu n'a
hélas.
pas d'innovation, pourquoi en acheter un autre si ça sera exactement la même chose? À part avec quelques graphismes peut-être améliorés, un meilleur gameplay. S'il n'y a pas d'innovation, ça ne sert à rien d'acheter un nouvel opus si c'est exactement le même que le dernier.
Surtout que ça a été fait déjà dès le début de la série. Hein. Sonic 1, il y a un seul personnage. Sonic 2, on met Tails. Sonic 3, on met Knuckles. À chaque épisode, on en rajoute. C'est le but, il faut toujours innover. Alors Sega, ils ont choisi d'innover en
Pourtant,
ajoutant chaque fois des nouveaux persos. Ils auraient pu faire différemment.
pourtant, moi, je vois, par exemple, pour donner un exemple, je vois quelque chose comme des jeux comme Mario ou d'autres séries. Je cite aussi Crash Bandicoot, des choses comme ça qui étaient énormément plateformes, qui n'avaient pas besoin d'innovation et qui n'en ont toujours pas besoin. Un minimum quand même, mais qui ne rajoute pas forcément un personnage à chaque jeu, qui rajoute simplement des nouvelles fonctions dans le gameplay, et ça marche franchement très bien.
Ils implantent quand
Moi,
même des nouveaux
je trouve que
personnages.
la différence, je trouve quand même que la différence entre la saga des Sonic et la saga des Mario, c'est que la saga des Mario, elle, c'est un renouvellement, un petit, hein, on va pas dire un énorme, un petit renouvellement au niveau du gameplay, tandis que Sonic le fait au niveau du gameplay et du scénario.
Sonic, pas tant que ça au niveau du gameplay. Mario, oui, Mario, on pourrait dire que c'est plutôt
Il y a quand
gameplay et
même
Sonic,
eu...
c'est plutôt au niveau des personnages. Et là, on part dans une comparaison entre Sonic et Mario et je dirais qu'on part un petit peu dans du hors-sujet. On devrait rester sur le thème du hérisson bleu.
D'accord.
D'accord,
Alors,
oui.
je pense qu'on peut passer au. On pourrait parler un petit peu des opus sortis sur console portable, qui étaient relativement bons. Donc, je vais citer les
Oui.
Sonic Advance pour commencer.
Il y en a eu avant. Il y a eu les Sonic de la Game Gear, qui étaient des adaptations des
Oui.
Sonic de la Master System, pour la plupart.
Oui, effectivement, ils étaient très bons.
Mais oui, bah, il y a eu la série des Advance. En fait, chaque Advance était complètement différent. On a le premier qui ressemble en fait à Sonic 2 et Sonic 3, Tandis que le second, c'est en fait un début de Sonic Rush. Et le troisième, on repart sur un principe un peu plus old school avec un système d'équipe. Alors c'est un petit mélange Sonic 3 et un système d'équipe à la Sonic Heroes, en moins abouti. Et en 2D. Alors il y a eu des débats dans cette série, hein. Pour moi, le 2 reste ouais. le moins réussi. Hein. Trop de vitesse, on appuie sur le bouton droite et le jeu fera le reste.
Oui, ça, et puis ça a d'ailleurs été constaté comme un des gros défauts de la série, c'est que des fois il suffit d'appuyer sur le bouton de droite et bon, forcément, c'est pas forcément, comment dire, jouissif au niveau du gameplay de ne rien faire. Je pense aussi que la série s'est arrêtée, enfin, cette série de jeux où on devait appuyer sur le bouton de droite s'est arrêtée un petit peu avec Sonic Rush où y a eu des ajouts dans le gameplay. Et puis le level design était vraiment beaucoup plus abouti.
Sonic Rush, alors après c'est une question toujours de goût. Hein. Sonic Rush c'est Sonic Advance 2 en plus abouti. Il y a des bien et du mal, c'est rapide, certes, mais on ne fait pas grand chose dans la partie. On laisse Sonic avancer à fond sur la droite et c'est tout. Bon, bien sûr, après il y a le gameplay de Blast qui est un petit peu. C'est un Blast the Cat qui avait été implanté dans cet opus-là. C'était un personnage plus lent. Qui pouvait planer un peu comme Knuckles. Ça, c'était assez intéressant, mais ça reste bourrin. Ça reste un jeu assez bourrin, Sonic Rush. Il y a des défauts qui ont été un peu plus gommés sur Sonic Rush Adventure, mais la série Sonic Rush, qui va peut-être avoir encore d'autres plus, pour l'instant, reste assez bourrin.
Ok, je pense que sans vouloir assassiner un petit peu la série, on pourrait parler aussi des épisodes un petit peu un peu plus ratés comme le premier Sonic Riders qui était vraiment pas terrible ou encore pour rester dans le dérivé, on pourrait aussi parler de Sonic Drift qui était vraiment une bouse ignoble. Donc enfin, faut le remettre dans le contexte, mais même dans le contexte, je pense qu'on peut pas trouver une qualité à jeu personnellement.
Alors, même dans le contexte, Sonic Drift reste un raté. Et c'est surtout en plus un mauvais copier-coller en fait de Mario Kart. Il y avait Mario Kart qui n'était
très mauvais alors. Hein.
Mario Kart qui était sorti et Sega a voulu profiter en fait du filon en faisant aussi leur jeu avec leur mascotte et bien entendu ça avait le même système. Mais ça n'avait pas la magie du Mario Kart. D'ailleurs, Sega ont vite fait abandonner. Hein. Ils ont fait Sonic Drift 1, Sonic Drift 2. Donc, vu que ça marchait pas, ils ont laissé tomber la course automobile pour Sonic. On n'en a plus jamais entendu parler.
Okay. Je ne suis pas d'accord sur un point. C'est qu'on a ensuite fait encore un opus de course qui était Sonic R.
Mais pas de course automobile. C'est un opus de course normale. C'était sur Sega Saturn. C'était pas vraiment de l'automobile. Oui. Il n'y avait que Amy qui se déplaçait en voiture.
Non, c'était tout de même de la course. On peut regarder que c'était quand même un gameplay plus proche de la course.
Ah oui, bah oui. Mais c'est aussi un petit peu les bases des Sonic 3D qu'il y a eu après. Hein. Si on regarde Sonic, il commence à effectuer quelques... C'est un début de 3D hein, qui fera par la suite Sonic Adventure. Hein. D'ailleurs, dans Sonic Adventure, on peut voir, il y a un moment dans le niveau aérien... Je ne me rappelle plus de son nom, je pense que Punky Boy le sait mieux que moi.
Windy Valley.
Sky quelque chose. Le niveau aérien quand on est sur un avion.
Aérien quand on... Ah oui, Sky Chase.
Eh bien, ce niveau-là, le modèle de Sonic, c'est un vieux modèle avec des longs pics. Limite, pas vraiment Dreamcast.
Alors ce modèle-là, il n'est apparu, il n'est pas paru dans la version européenne, mais dans la version bêta japonaise. Ce modèle de Sonic pointu, tout saturnien.
Oui. Là, quand on le voit, il ressemble à celui de la Saturne. Donc on voit qu'en fait là, ce Sonic R.
C'est pas qu'il ressemble, c'est que c'est exactement le même.
C'est exactement le même. Oui, c'est, je dis ressembler pour pas trop critiquer la Dreamcast parce que je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup la console ici. C'est que oui, c'est le même modèle, c'est la même tête, c'est pareil quoi.
Effectivement.
Sonic R, ça a été un petit peu
donc,
une sorte de base à Sonic Adventure.
Donc pour un petit peu remonter le niveau, je pense que on peut aussi parler de Sonic and the Secret Ring, qui a été fort apprécié des fans de par son univers et de par son gameplay assez novateur. Je pense que Xehan là peut nous en parler longuement.
Alors lui, oui, il a été vraiment novateur. Il est arrivé à peu près en même temps que la sortie de la nouvelle console de Nintendo. Nintendo, c'est la nouveauté, c'est le capteur de mouvement. Et bah, Sega, on souhaite être là au bon moment. Le capteur de mouvement est parfaitement utilisé, on bouge la Wiimote gauche-droite, et Sonic se déplace à gauche-à-droite. Il y a aussi quelques modifications. On se plaignait que dans beaucoup de Sonic, il suffisait de. Dans les Sonic en 3D, bien sûr, hein, il suffisait de mettre le joystick vers l'avant et le jeu faisait le reste. Sega a réglé le problème. Maintenant, Sonic avance tout seul vers l'avant. Et pareil, on critiquait la gestion de la caméra des Sonic 3D. Il n'y a plus de problème. Maintenant, Sonic n'est vu que de derrière. Il n'y a plus de ce genre de problème de caméra.
Mais est-ce que ça en fait pas un jeu d'autant plus linéaire que les anciens opus?
Alors linéarité, difficile à dire, les niveaux ne se ressemblent pas du tout entre eux. Et les actions non plus. Surtout que les actions de Sonic sont. Même si c'est les actions classiques, il y a aussi le petit système RPG. On peut mettre des capacités à Sonic. Il est capable maintenant, on lui donne la possibilité d'utiliser par exemple son mini-attaque plus loin, d'avoir plus de vitesse. Puis il y a tout l'aspect glissade. Et on peut glisser sur des rails maintenant. On pouvait déjà le faire dans Sonic Heroes, dans Sonic Adventure 2. Là, ça a été bien implanté. Dans le jeu, dans tous les niveaux, il y a ce genre de passage.
Ok. Alors ensuite, je pense qu'on peut passer aussi.
Oui. C'est un jeu qui est graphiquement réussi, qui a su être là au bon moment. Oui, c'est un des plus beaux. C'est un des tout premiers jeux, c'est un des plus beaux avec Mario Galaxy et The Legend of Zelda. Pour une fois, agréable surprise d'un Sonic en 3D après Sonic Adventure, un Sonic réussi. Et on peut dire que ça, c'est le début de la remontée de la série.
Ok. Alors par contre, là, on va passer un petit peu à ce que nous réserve l'avenir concernant la série. Donc on a eu des screenshots récemment de Sonic Unleashed, plus un trailer assez terrifiant. Mais on va plutôt parler en premier de Sonic Chronicles, le RPG qui n'est pas fait cette fois-ci par la Sonic Team, mais par BioWare, qui nous a pondu déjà de très très beaux RPG. Sur Sonic Chronicles, je crois que Sabaka a beaucoup d'infos.
Oui, j'ai quelques informations venant de plusieurs sources diverses de l'intraweb. Alors, tout d'abord, l'opus s'appellera Sonic Chronicles The Dark Brotherhood et sera prévu pour septembre 2008. Et l'éditeur sera bien entendu, comme vous l'avez dit, BioWare, qui a déjà fait pas mal de bons jeux, comme Baldur's Gate ou encore Mass Effect récemment. Ce jeu rejoindra en fait le gameplay RPG, où Knuckles se fera kidnapper par une bande appelée les Maraudeurs, et où Sonic devra s'allier avec ses anciens comparses des aventures précédentes et les opus sur Mega Drive et GameCube, DS, toutes consoles confondues, où on devra le sauver. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs améliorations, ou comme on peut dire, comme on l'a déjà dit sur plusieurs jeux, on pourra apprendre des attaques et plusieurs spécialités aux divers personnages. Et en même temps, on devra utiliser chaque personnage pour faire des actions différentes. Par exemple, vous devrez utiliser deux personnages pour commencer une action, comme bouger une grue, utiliser un troisième pour activer la grue, et utiliser un quatrième pour poser ce que tient la grue, ce qui peut faire en conclusion, un jeu qui utilise très bien le travail d'équipe et qui vous fera contrôler tous les personnages plusieurs fois, un à la fois.
Alors moi, ce que je voudrais préciser, c'est au niveau des graphismes du jeu. Il y a une sorte de cel shading qui est, on va dire, assez proche du design qu'avait Sonic Shuffle au niveau vraiment des textures.
Tu l'as dit, oui, ça j'ai oublié de le préciser, c'est que les décors, avant d'être modélisés par ordinateur, ont été peints à la main. Et je pense qu'on peut clore
quelque chose à rajouter.
Sonic Chronicles.
Sonic Chronicles, j'ai pas énormément suivi l'actualité. Je sais que ça va être une innovation dans le monde de Sonic, parce que pour la première fois, on fait vraiment un RPG sur ce jeu. Ça va être une grande innovation. Hein. Mais bon, moi, je suis pas trop fan, donc j'ai pas trop suivi cette actualité. J'ai plutôt suivi l'actualité de Sonic Unleashed. Vu que c'est le gros Sonic qui va arriver dans peu de temps sur grosse console, ça reste Sonic Unleashed pour moi. Sonic Chronicles, je l'ai un petit peu zappé.
Alors vas-y, tu peux nous parler de Sonic Unleashed.
Parle-nous de Sonic Unleashed.
Ah, enfin, en fait, ça va être enfin un Sonic qui va sortir sur les trois consoles next-gen. Parce que Sonic and the Secret Rings, il était sorti uniquement sur Wii. Et Sonic the Hedgehog 2006, Il était sorti uniquement sur PS3 et Xbox 360. Donc celui-ci il sort sur les trois. Comme ça le problème est réglé. Il sort également sur PS2. Alors en fait, Sega ils ont travaillé sur un moteur qui fonctionne parfaitement sur toutes les consoles choisies. Alors graphiquement en fait ça ressemble un petit peu à Sonic and the Secret Rings. Ça ressemble un petit peu à Sonic 360. Mais sinon, pour ce qu'on peut parler du gameplay, d'après les quelques images qu'on peut voir, hein, on peut en voir sur beaucoup de sites Sonic, ça va ressembler un peu à Sonic Rush. Il y aura des parties 2D un petit peu à la Sonic Rush, Sonic Old School peut-être, mais on peut dire on n'a pas encore eu à cette vidéo. Et il y aura des parties en 3D où Sonic foncera, donc il aura toujours le Rush. Alors ça va ressembler un peu à Sonic and the Secret Rings. On a aussi vu les univers okay. Un petit peu. Hein. Ça fait ville Europe de l'Est, si on regarde. Hein. Des villes d'Europe de l'Est, oui. Alors le mieux c'est d'avoir les images
quand on décrit ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du loup-garou?
Ah oui, alors on a vu un trailer où apparemment, et même d'ailleurs sûrement, de jour, Sonic, on contrôlera Sonic. Et de nuit, on contrôlera Sonic sous forme de loup-garou. Une sorte de hérisson-garou. Il aura un gameplay beaucoup plus bourrin. En fait, il sera plus lent, mais il aura tendance à sauter plus haut, il aura la possibilité de détruire les caisses, de détruire plus facilement ses ennemis, alors que Sonic, c'est plutôt on peut jouer plutôt de l'esquive, de la vitesse, accessoirement attaquer ses ennemis, mais le but, c'est de faire péter le chrono. Là, Sonic-garou, en fait, sera un peu plus bourrin. C'est l'aspect bourrin du jeu.
C'est comme s'il avait un coup de bouche, voilà. Si je ne me trompe pas.
Ouais, on peut dire ça comme ça, oui.
D'accord, un gros bill.
Et apparemment, le jeu peut être considéré comme une sorte de Sonic Adventure 3. Alors, le Sonic the Hedgehog 2006, déjà on en parlait comme un Sonic Adventure 3. À la base, Sonic Unleashed était développé sous le nom Sonic Adventure 3. En fin de compte, on a changé un petit peu le nom. Il y aura des Adventure Field. C'est-à-dire que ça va faire comme Sonic Adventure. On pourra
et ça c'est bien, je pense. Je pense que c'est la meilleure chose qu'un Sonic puisse faire.
Et ça va être génial.
Donc on aura une liberté.
La saga Sonic va remonter. Voilà, il y aura une liberté
d'accord.
De mouvement. Alors j'ai pas encore.
On
j'ai
aura
pas
une
photo avec des humains dedans, mais vu qu'on voit des villes, à mon avis des villes aussi bien faites, il y aura forcément les humains qui se baladeront dedans quoi. Donc on va renouer avec les humains comme ça en pleine partie.
Vas-y Sabaka.
Est-ce que les niveaux, on pourra les choisir nous-mêmes? C'est-à-dire par exemple comme dans Super Mario 64, on pouvait choisir aussi bien de faire le royaume bombe et de choisir tout de suite le royaume des tombes. C'est-à-dire est-ce que l'on peut avoir le choix du niveau ou ça sera tout le temps linéaire? Un niveau pour jusqu'à
non, non, effectivement, c'est ce qu'il disait, les Adventure Field, en fait, c'est le principe qui a été mis en place avec Sonic Adventure. Qui a disparu avec Sonic Adventure 2 Battle et qui est revenu avec Sonic 2006. Donc je pense que oui, on pourra faire exactement, c'est le principe de Mario 64, c'est qu'on pourra se balader et choisir un petit peu son entre guillemets tableau. Et la nouveauté, c'est que là, il va falloir les débloquer en faisant certaines actions. Je me souviens que dans Sonic Adventure, par exemple, il fallait chercher pour ouvrir un rideau de fer, il fallait chercher une carte d'employé dans les niveaux. Enfin, c'était ce principe-là qui a rajouté une toute petite touche de recherche.
Ah bah, Sonic Adventure,
donc voilà.
Là, on peut pas le critiquer. Hein. C'était très intéressant, le Adventure Field. C'était une très bonne innovation de ce jeu-là. En plus, on l'a zappé quand on a fait. C'était très réussi.
D'accord. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Je pense qu'on peut conclure là-dessus sur le fait que l'avenir nous réserve de belles choses quant à la série. Écoutez, moi je vous remercie d'avoir participé à ce podcast. Je remercie les auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et je vous dis à tous les deux et aux auditeurs au prochain podcast. Et puis bon jeu.
Hein,
merci
à bientôt, au revoir. Pour de nouveaux débats. Et au revoir.